Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous vous retrouvons, Françoise Gernot et moi. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous.
Dans cette seconde émission intitulée « Résister au désarroi », et vous aviez, Françoise, dans cette première émission, présenté des vœux, je dirais, tempérés face à ce contexte actuel. Et nous allons continuer avec Spinoza et réfléchir à que peut la philosophie en face de notre désarroi. Et je crois que vous voulez reciter un passage de l'article du Monde d'Edgar Morin.
Oui. Alors, la question est bien celle du pouvoir, peut-être même de la puissance de la philosophie devant une situation qui nous affecte d'un profond désarroi. Donc, comment résister à ce désarroi ? J'avais conclu l'émission précédente et je voudrais y revenir par une assez longue citation de celui que j'appelle notre boussole morale, une citation donc d'Edgar Morin, article du Monde du 23 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui où nous enregistrons, du 23 janvier 2024. Donc je ne poursuis plus le thème que j'avais abordé au début, qui était celui de la difficulté de présenter des vœux, alors que des vœux supposent la régénérescence spontanée des événements et des expériences personnelles vers un monde de bonheur et de paix. Enfin, tout ça est bien en suspens. Mais justement, que peut la philosophie en face de ce que Edgar Morin, je n'avais pas cité son titre, appelle la polycrise que traverse l'humanité ? Je me permets de reprendre la citation. Alors, voici l'analyse d'Edgar Morin, celle d'une course vers le désastre. Elle est très motivée par toute la première partie de son article. Et immédiatement, après avoir décrit vraiment cette logique du désastre que j'ai interprétée moi-même dans la partie précédente comme la logique de la guerre absolue, c'est-à-dire la logique d'une montée aux extrêmes, eh bien, devant ce descriptif extrêmement précis, Edgar Morin ne reste pas inerte. Au contraire, il propose une attitude, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en philosophie une éthique, et c'est déjà un signe vers Spinoza, une éthique de la résistance qui passe par la résistance de l'esprit. Alors, je voudrais relire, je me répète, cette citation et peut-être revenir aussi à la conclusion que je n'ai pas donnée à la conclusion de cet article. Alors, voici. La première et fondamentale résistance est celle de l'esprit. Nous verrons que la thématique, maintenant j'insère mon problème, la thématique de Spinoza est bien celle de la concordance du corps avec ses affects et de l'esprit. Je reviens à Edgar Morin. La première fondamentale résistance est celle de l'esprit. Elle nécessite de résister à l'intimidation de tout mensonge asséné comme vérité, à la contagion de toute ivresse collective. Elle nécessite de ne jamais céder au délire de la responsabilité collective d'un peuple ou d'une ethnie. Elle exige de résister à la haine et au mépris. Elle prescrit le souci de comprendre la complexité des problèmes plutôt que de céder à une vision partielle ou unilatérale. Elle requiert la recherche, la vérification des informations et l'acceptation des certitudes. C'est tout un programme philosophique et c'est précisément ce programme qui, pour moi, fait appel à l'analyse des soubassements affectifs de l'affectivité humaine, tel que l'affect doit être relayé par la raison. Il s'agit bien sûr, je me réfère bien sûr à la merveilleuse construction théorique de Spinoza, l'éthique. Je continue pour la conclusion de l'article d'Edgar Morin et j'enchaînerai immédiatement sur Spinoza. C'est l'union au sein de nos êtres des puissances de l'éros, affect, et celle de l'esprit, mens. C'est l'union au sein de nos êtres des puissances de l'éros et de celle de l'esprit, éveillé et responsable, qui nourrira notre résistance aux asservissements, aux ignominies et aux mensonges. Les tunnels ne sont pas interminables, le probable n'est pas certain, l'inattendu est toujours possible. Il y a une petite lueur d'espoir, je dirais presque quasi messianique dans le discours d'Edgar Morin. Et je me propose maintenant d'enchaîner précisément parce que je crois que chez Spinoza, tout y est, ou plutôt chez Edgar Morin, tout y est, d'une synthèse en quelque sorte de la pensée de Spinoza. Je vais essayer de l'expliciter devant vous.
Alors, on avait parlé dans l'émission précédente des jalons, et là, on est dans Spinoza.
Oui. Alors, je rappelle, Spinoza, c'est le XVIIe siècle, 1632-1677, date de sa naissance et de sa mort. Quant à l'éthique, elle est rédigée et publiée un peu en sous-main entre 1961 et 1675. 1661-1675. Hein? Oui. Je rappelle aussi à quel point l'éthique est un livre extraordinairement subversif, puisqu'il a dû être... il a dû être non pas édité, mais diffusé sous le sceau d'un certain secret. Je rappelle que l'emblème de Spinoza, c'est une rose avec des épines, Spinoza, l'épineux, et sous cette rose avec épines, une formule chaotée, sois prudent, prudemment. Parler sous la rose... cela signifie, c'est un code, sub rosa, cela signifie parler de manière discrète,
de telle sous sorte, le manteau, on dirait.
Oui, de telle sorte que l'adversaire ne soit pas immédiatement interpellé. Voilà. Eh bien, quelle est la formule par laquelle je voudrais commencer et qui rejoint justement... la pensée, ce que je viens de lire d'Edgar Morin, la formule... préférée de Spinoza est la suivante, elle est souvent citée. Ne pas tourner en dérision, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Alors, en latin, c'est plus beau, je me permets de vous le dire. Non ridere, nec lugere, neque detestari, sed intellegere.
Intellegere.
Mais comprendre. Alors, c'est à cette obligation. Au-delà des passions qui pourtant nous travaillent, c'est à cette obligation de comprendre dont il s'agit précisément dans l'entreprise de Spinoza. Je voudrais justement réarticuler cette proposition de Spinoza qui consiste justement à faire confiance en les forces de l'esprit sur ce que Gilles Deleuze, dans une de ses présentations, dit de la personnalité intellectuelle de Spinoza. Je vais vous lire. Alors, entre-temps, ce mot d'ordre de Spinoza, cette espèce de motto de Spinoza, n'implique pas une indifférence chez Spinoza, parce que dans la circonstance politique où dans les États de Hollande, une affaire effroyable surgit. C'est-à-dire l'assassinat de ceux qui représentent l'esprit républicain, les frères de Witt, dans cette circonstance, eh bien, on dit que Spinoza voulait peindre sur les murs, écrire sur les murs la formule suivante, Ultimi barbarorum, les derniers des barbares. Donc, si vous voulez... l'espèce de froideur d'analyse de Spinoza est travaillée aussi de l'intérieur par une sorte de passion, une passion de la vérité et de la justice. Et c'est là ce qui rend la lecture souvent un peu étrange, parce que nous avons l'impression comme je le disais à l'instant, d'une froideur, mais en même temps, sous, en quelque sorte, une extraordinaire passion de la raison, et de la raison dans ce qu'elle a de juste, de ce qu'il appelle le monde, de l'idée adéquate. Je vous lis, disais-je, ce que Gilles Deleuze décrit de la pensée, ou plutôt de la personnalité intellectuelle de Spinoza, et cela rejoint notre thématique de la résistance au désarroi. Voici donc comment Gilles Deleuze présente Spinoza. L'affirmation. Dans un monde rongé par le négatif, il, Spinoza, a assez confiance dans la vie, dans la puissance de la vie, pour mettre en question la mort, l'appétit meurtrier des hommes, les règles du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Assez de confiance dans la vie pour dénoncer tous les fantômes du négatif. L'excommunication, la guerre, la tyrannie, la réaction, les hommes qui luttent pour leur esclavage comme si c'était leur liberté. Ceci forme le monde négatif où vit Spinoza. L'assassinat des frères de Witt est pour lui exemplaire. Ultimi barbarorum. Toutes les manières d'humilier et de briser la vie, tout le négatif, ont pour lui deux sources, l'une tournée vers le dehors et l'autre vers le dedans. Ressentiment et mauvaise conscience, haine et culpabilité. La haine et le remords, les deux ennemis fondamentaux du genre humain. Citation. Ces sources, il ne cesse de les dénoncer comme liées à la conscience de l'homme et ne devant tarir qu'avec une nouvelle conscience, sous une nouvelle vision, dans un nouvel appétit de vivre. Spinoza sent, expérimente qu'il est éternel.
Et là, c'est tiré donc de quel livre de Gilles Deleuze ?
Alors, de Gilles Deleuze, Philosophie pratique. C'est un texte qui a été publié, alors je crois qu'il a été publié en 1981. Mais il s'agit de courts essais qui sont juxtaposés. Donc c'est plutôt un recueil qu'un livre thématique.
Vous nous disiez, en fait, quand on préparait cette émission, que Spinoza est contre l'accablement inerte. Il faut lutter, il faut chasser.
Alors non pas qu'il s'agisse d'une prescription. Soyez courageux, ardent, haut les cœurs. Non, il ne s'agit pas d'une prescription. Il s'agit pour, et c'est ça le génie Spinoza, il s'agit pour Spinoza de montrer que l'homme, l'homme que nous sommes, puisque la plupart du temps, dans ses énoncés qui ont une certaine abstraction, il parle au nom d'un nous, c'est-à-dire d'un collectif, d'un collectif d'esprit et aussi de corps.
Oui, donc il fait partie.
Dont il fait partie, oui. Il y a un nous, il y a un nous qui règne en quelque sorte dans les analyses que Spinoza effectue de la vie humaine. Alors, je disais qu'il ne s'agit pas simplement d'une prescription au lecteur, mais il s'agit pour Spinoza de décrire ce qu'est la condition des hommes, la condition de ce nous collectif qui est essentiellement caractérisé par la puissance d'agir. Alors, entre parenthèses, ce qui rend la lecture de l'éthique, publiée donc après la mort de Spinoza pour des raisons de prudence. Ce qui caractérise l'éthique, c'est que d'abord cette méditation, c'est une méditation sur, je dirais, la nature humaine, inclut dans la nature tout court, la nature en tant qu'elle est elle-même efficience, cette nature assimilée à Dieu, eh bien cette méditation, elle prend une forme assez étrange, qui est la forme de l'exposition géométrique. Donc nous avons à la fois une analyse de la passion, de l'esprit, de cette justement élan quasiment vital de chacun d'entre nous, et en même temps une présentation qui procède par une série de démonstrations à la manière, dit-il, more geometrico, à la manière de la géométrie, des mathématiques.
Sur Radio Alliance Plus, dans cette émission Résister au désarroi, la deuxième émission, nous abordons après, comme dans la première, un extrait de la symphonie numéro 7 de Chostakovitch, un symbole de résistance écrite au moment du siège de Leningrad. Donc après cet extrait, nous reprenons, enfin vous reprenez Françoise, votre analyse donc de Spinoza. Comment lutter contre ce désarroi?
Oui, alors avant d'en venir justement aux traits fondamentaux de l'existence humaine, de l'existence de toute substance, je vais commencer par la fin. Or, qu'en est-il de la philosophie? Ou plutôt de l'homme libre, qui est en quelque sorte l'idéal du philosophe et sa réalisation. L'homme libre, proposition 47 du livre 4. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. L'homme libre, c'est-à-dire qui vit sous la seule dictée de la raison, n'est pas conduit par la crainte de la mort. Mais il désire directement le bien, c'est-à-dire il désire agir, vivre, conserver son être d'après le fondement qui consiste à rechercher son propre utile. Et par suite, il ne pense rien moins qu'à la mort. Mais sa sagesse est une méditation de la vie, CQFD.
Ouais. J'ai envie de dire facile à dire.
Oui, mais justement, l'idée, c'est de bander en quelque sorte toutes les ressources, tout l'élan de l'esprit pour précisément affirmer la vie.
Ouais.
Vous voyez bien d'ailleurs qu'il y a une dénonciation subreptice de toutes ces traditions philosophiques selon laquelle la philosophie serait méditation de la mort, depuis Socrate jusqu'à Montaigne. Montaigne n'a pas été très bon dans cette affaire-là, entre parenthèses. Eh bien, revenons aux éléments. Donc, tout commence par une définition, une détermination du corps humain. Nous sommes des corps, et essentiellement de cette puissance d'agir propre au corps, inhérente au corps, et sans laquelle l'esprit n'a absolument pas de sens. Je vous lis. Livre 3 des affects. Je dirais un mot sur le mot affect. Si le mot affect est un peu abstrait, c'est affectus en latin, pensez à sentiment. Penser à ce qui nous touche, bien sûr, j'avais fait une émission sur les affects, à ce qui nous touche et en nous touchant nous entraîne aussi. Bien sûr, il y a une dynamique interne à l'affect. Alors je lis. Par affect, j'entends les affections du corps qui augmentent ou diminuent, aident ou répriment la puissance d'agir de ce corps et en même temps les idées de ces affections. Alors, complexe tout de même.
Donc
tout commence par l'affect et l'affect se manifeste il est sollicité et il se manifeste par les affections du corps. Or, de quoi s'agit-il? Eh bien, la vie affective, elle joue entre deux polarités. Il y a des affections du corps qui augmentent ou diminuent, aide ou réprime la puissance d'agir de ce corps. Donc, l'élément fondamental, je dirais, de ce que Spinoza appelle la vie, c'est bien la puissance d'agir. Et une puissance d'agir qui peut aller de la faiblesse, de l'affaiblissement, nous verrons c'est la tristesse, au contraire, à une certaine exaltation, qui est celle de la joie. Je continue. Le corps humain peut être affecté de nombre de manières qui augmentent ou diminuent sa puissance d'agir, ainsi que d'autres qui ne rendent sa puissance d'agir ni plus grande ni moins. Autrement dit, la vie affective, qui est vraiment le fondement de notre vitalité. Et l'esprit ne peut pas vivre, si j'ose dire, l'esprit ne peut pas penser et agir sans ce soubassement, sans cette énergie de la vie affective. Eh bien, cette vie affective, elle est fluctuante. Elle passe, encore une fois, de moments d'abattement à des moments d'élévation, en quelque sorte. Et elle passe donc, nous allons le voir, de ce que Kant appelle la tristesse, elle passe de la tristesse à la joie ou inversement. Hein? Donc, nous savons bien que notre vie affective nous perturbe d'une certaine manière dans un flux qui deviendra d'ailleurs un flux de conscience. Hein? Nous sommes continuellement balancés entre ces deux affects, ces deux affects majeurs. Or, pour Spinoza, il y a en effet seulement deux affects majeurs, que sont la tristesse, diminution de notre puissance, évanouissement de notre élan vital et la joie qui, au contraire, nous conduit, lorsqu'elle s'articule sur une idée juste, ce qu'on appelle,
l'idée soit juste. Oui.
Spinoza appelle une idée adéquate, eh bien, cette joie nous appelle à l'activité, l'activité pensée, l'activité réfléchie.
Mais nous avions parlé ensemble, enfin je vous avais posé la question, est-ce que ça a à voir avec l'engagement en fait, que pour être bien, je dirais, il faut s'engager.
Je pense que c'est beaucoup plus fondamental qu'une politique de l'engagement. Entre parenthèses, aucun intérêt de ma part pour Sartre. Bon, fermons la parenthèse. Cette puissance d'agir est liée à autre chose, qui est un effort de chaque substance, de chaque chose, pour persévérer dans son être. Je vous lis la proposition 6. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. L'effort par lequel, proposition 7, chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien à part l'essence actuelle de cette chose. Donc, nous voyons bien le lien qui existe entre l'affect, hein, qui en quelque sorte prend en charge toute la dynamique psychique, hein, et précisément cet effort qui lui est parallèle de persévérer dans son être. Persévérer pour chaque chose dans son être. Vient ensuite la définition assez précise de cet ensemble de concepts qui nous permettent de penser, encore une fois, à la fois notre corps et notre vie psychique, sur l'alliance, ou plutôt la concordance, ou plutôt le parallélisme de l'esprit et du corps, je vais revenir. Je lis. Hein? L'esprit, du corps à l'esprit. L'esprit, en tant qu'il a tant des idées claires et distinctes que des idées confuses, alors idées claires et distinctes lorsque l'esprit pense au titre de la pure raison, et idée est confuse dans la mesure où l'esprit prend en charge, en quelque sorte, produit des idées à partir des affects. Hein? Donc l'esprit, en tant qu'il a tant des idées claires et distinctes que des idées confuses, s'efforce de persévérer dans son être pour une certaine durée indéfinie et il est conscient de son propre effort. Donc l'esprit, ça n'est rien d'autre que la conscience de soi, précisément, de cet effort, conatus, hein, qui consiste à persévérer dans son être. Hein, une sorte d'effort, une sorte d'élément de dynamique. L'esprit est donc conscient de son effort. Alors si l'effort a une source somatique, une source corporelle, et Spinoza note toujours que nous ne savons pas ce que peut un corps. Le corps reste quelque chose de tout à fait énigmatique, mais il est tout de même intégré, nous allons le voir, dans cet effort qui porte justement de l'affect à la raison, dans le mouvement même de l'esprit. Cet effort, je le cite, Scoli, cet effort, quand on le rapporte à l'esprit seul, s'appelle volonté. Vous voyez, volonté, c'est bien le jeu. Hein. Mais quand on le rapporte à la fois à l'esprit et au corps, on le nomme appétit. Alors appétit, aujourd'hui on dirait désir, lequel n'est partant rien d'autre que l'essence même de l'homme. Donc le désir, c'est l'essence même de l'homme. De la nature, de qui suivent l'esprit, donc, l'appétit, le désir. De la nature, de qui suivent nécessairement les actes qui servent à sa conservation. Et par suite, l'homme est déterminé à les faire. Il y a bien le lien entre cet élan, désir, appétit, Ensuite, alors, il y a une distinction plus fine entre l'appétit, appetitus, et le désir. Il n'y a aucune différence, sinon que le désir se rapporte généralement aux hommes en tant qu'ils sont conscients de leur appétit. Et c'est pourquoi on peut le définir ainsi, le désir et l'appétit, bon, disons l'aspiration, hein, avec la conscience de cette aspiration. Bon. Vient ensuite une position assez étrange qui renverse, je dirais, la thèse philosophique classique. Il ressort donc avec évidence de tout cela que quand nous nous efforçons à une chose, quand nous la voulons ou quand nous aspirons à elle, quand nous la désirons, ce n'est pas parce que nous la jugeons qu'elle est bonne, mais au contraire, si nous jugeons qu'une chose est bonne, c'est parce que nous nous y efforçons, parce que nous la voulons, parce que nous aspirons à elle et nous la désirons. Autrement dit, ce qui est premier, c'est bien la dynamique de l'affect, quel que soit l'objet vers lequel cet affect ensuite tend. Et là, on voit bien qu'il y a un renversement précis. Et enfin,
oui, parce
ce qui est très important, c'est ceci, hein. Toute chose qui augmente ou diminue, aide ou réprime la puissance d'agir notre corps, l'idée même de cette chose augmente ou diminue, aide ou réprime la puissance de pensée de notre esprit. Et il avait dit préalablement, Spinoza, l'esprit c'est l'effort qui consiste à affirmer l'existence de notre corps, par la suite une idée qui nie l'existence de notre corps est contraire à notre esprit. Vient ensuite l'opposition entre joie et tristesse, qui sont évidemment avec le désir les trois éléments fondamentaux de notre vie psychosomatique. Je lis « Par joie, j'entendrai donc par la suite une passion par laquelle l'esprit passe à une plus grande perfection, hein, et par tristesse, une passion par laquelle il passe à une perfection moindre. De plus, l'affect de joie, quand il se rapporte à la fois à l'esprit et au corps, je l'appelle jouissance ou allégresse, et celui de la tristesse, douleur ou mélancolie. Hein. » Et le désir n'est rien d'autre que précisément la conscience de ces, ou la dynamique de ces deux états psychiques à partir desquels Spinoza construit toute une déduction mathématique de nos affects, étant donné aussi qu'il s'agit en dernière instance, dans un autre livre de l'éthique, c'est plusieurs livres, il s'agit dans une autre perception de montrer comment la raison doit l'emporter sur précisément l'affect au sens, je dirais presque brut du mot.
En conclusion, Françoise, une dernière lecture ?
Oui, ce sera très bref. Spinoza insère la question des affects dans le domaine de la raison et de la vie en société. Et voilà ce qu'il dit, je conclurai là-dessus. Proposition 45, la haine ne peut jamais être bonne. Autrement dit, il n'y a pas de bon usage de la haine.
Merci, point final. Françoise.
Merci.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.